Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, nos indispensables du jour, des conseils cinéma, on est mercredi, et des jeux vidéo pour la nuit d'Halloween. Vous retrouverez évidemment notre carré d'as, Charles Decamp, Bertrand Chamerois, Eva Rock et Hélène Manarino. Dans l'ordre, le quarté. Notre info média, qu'est-ce que la laïcité? Enjeu crucial pour les politiques, mais également pour les médias. Et c'est la question que se posent deux chaînes de télévision dans des genres totalement différents. LCP, la chaîne parlementaire, institutionnelle par définition, et Vice France, fer de lance de la contre-culture en quelque sorte. Nous serons avec leurs directrices et directeurs respectifs, Guylaine Chenu et Romain Marcilli. Puis François Bunel, le présentateur de la Grande Librairie sur France 5, parrain d'une belle opération organisée par les librairies indépendantes et le Secours Populaire, donné à lire. Il nous expliquera en quoi cela consiste. Et puis, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, vous rappelez, best-seller mondial, 1,5 million d'exemplaires vendus dans 40 pays. Son auteur, Romain Puertola, sort un nouveau roman sous le parapluie d'Adélaïde. Il sera avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Un nouveau média culturel débarque demain. Les Français refusent de payer pour de l'info de qualité. France Football crée l'événement et une superstar s'apprête à faire ses premiers pas au cinéma.
Mais évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision.
Pas de surprise en pole position puisque France 3 proposait un épisode inédit de Capitaine Marlowe. Oh ben voilà. Pas de suspense. La série avec Corinne Maziero a fédéré 6,7 millions de téléspectateurs, oh là là. Soit 26,5% du public. Un énorme carton une nouvelle fois. M6 est deuxième avec le deuxième épisode de La France a un incroyable talent saison 15. Après son excellent démarrage la semaine dernière, l'émission faiblit légèrement à 3,4 millions de téléspectateurs pour 14,5% de part d'audience. Ça reste très bon. TF1 pointe en troisième position seulement avec la suite de Good Doctor saison 3. Les deux épisodes de la série américaine ont été suivis par 3,3 millions de téléspectateurs pour 13,4% de part d'audience. La Une est cependant leader comme chaque semaine sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 23% de part d'audience, soit près de 3 points de plus que M6.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec la naissance d'un nouveau média culturel.
Un média qui sera dévoilé demain et qui va s'appeler la Claque FNAC. Vous l'avez deviné, c'est la FNAC qui lance ce projet. Pas de suspense non plus.
Non.
Il s'agit donc d'un nouvel espace digital qui a pour but de mettre en avant le rôle d'agitateur culturel de la marque. Avant de vous en dire plus, on a demandé au directeur de la communication et des affaires publiques de FNAC Darty, Benjamin Perret, pourquoi le nom de la Claque FNAC avait été choisi.
C'est venu quand on travaillait sur le projet. Il y a deux acceptions dans le terme. Il y a les claques culturelles, et c'est vrai que c'est ce qu'on aime bien prendre et donner, hein. C'est cette surprise, cette claque devant un bon livre, devant un bon film. Donc il y avait ce terme qui nous plaisait bien parce que ça claque. Et puis deuxièmement, il y a dans la deuxième acception la mécanique aussi de claque comme au théâtre, c'est-à-dire que finalement, historiquement, ce qu'a toujours fait la FNAC, c'est d'être les premiers à applaudir et les premiers à célébrer des artistes pour partager ce plaisir avec un public plus large. Et en fait, c'est ça, faire la claque au théâtre, historiquement. Et par ce site, la Claque FNAC, c'est exactement ce que l'on veut faire, c'est partager notre enthousiasme et faire découvrir.
La Claque FNAC, ce sera d'abord un site internet conçu un peu comme un magasin de la chaîne avec des espaces littéraires, musicaux, cinéma. L'objectif est d'emmener les internautes vers des contenus qu'ils n'étaient pas forcément venus chercher initialement. Le site proposera des formats courts, traditionnels pour le web, avec l'actu des artistes par exemple, mais aussi des rencontres entre des artistes confirmés et des débutants, des micro-concerts ou encore des entretiens avec des grands noms de la littérature française et étrangère. Le directeur de la communication de FNAC Darty a expliqué à Louise Bernard pourquoi la FNAC s'était lancée dans ce projet.
On voulait donner plus d'écho à nous, à notre action culturelle et à ce que l'on fait tout le temps, toute l'année avec les artistes. Donc cette rencontre directe entre les artistes et le public au sens large. C'est aussi notre façon de sélectionner, de mettre en avant des artistes pour que le public aiguise sa curiosité et envie de découvrir des artistes, se laisse surprendre et donc se laisse prendre des claques culturelles. Et puis c'est aussi une réponse à cette année 2020 qui est une année assez destructrice sur la création culturelle. On s'est dit qu'on avait une responsabilité, on avait envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de nouveau autour de la culture en cette fin d'année. C'est notre façon à nous de célébrer la rentrée culturelle, hein, qui a eu lieu, hein. Et quand vous regardez il y a quelques mois, On ne savait pas bien s'il y aurait une rentrée littéraire, une rentrée musicale. Elle a eu lieu et c'est la façon de la FNAC de prendre toute sa part dans cette rentrée culturelle.
Tous les contenus de la claque FNAC seront proposés gratuitement dans la lignée de ce que la marque propose au quotidien. Tous les événements, les rencontres, les séances de dédicaces ont toujours été gratuits à la FNAC, même si l'objectif de ce nouveau média est évidemment de donner envie aux internautes de consommer des produits culturels et de soutenir la création.
Et c'est même œcuménique puisqu'on peut même ensuite aller les acheter à la concurrence, donc bravo. 57% des Français refusent catégoriquement, c'est moins joyeux, refusent de payer pour une information de qualité.
C'est l'un des enseignements de l'étude internationale Global Advisor d'Ipsos qui a été publiée hier. Les Français qui figurent depuis longtemps parmi les plus adeptes du piratage sur Internet dans le monde ne dérogent pas à leur réputation dans ce nouveau sondage. Seuls 15% se disent prêts à investir pour avoir la certitude que l'information qu'ils consomment est sûre. On est très loin de la moyenne mondiale qui atteint 27%, tandis que la Suède est très en avance sur ce sujet avec 34% des sondés qui sont prêts à payer pour l'info de qualité. Et dans les faits, entre ce qu'ils sont prêts à faire et ce qu'ils font vraiment, il n'y a que 7% des Français qui mettent vraiment la main à la poche pour financer les médias qu'ils consultent, contre 17% dans le monde.
Mais alors, s'ils ne sont pas prêts à payer, comment les Français font-ils pour faire le tri entre les vraies et les fausses infos ?
Un Français sur deux estime être en capacité de le faire par lui-même donc ne pas avoir besoin de payer pour ça. Et 40% des personnes interrogées dans l'Hexagone affirment faire le nécessaire pour s'assurer que les informations proviennent de sources dignes de confiance. Ça laisse quand même 60% qui ne le font pas.
Ouais.
L'étude indique également que les Français s'informent toujours en priorité via la télévision, qu'ils regardent au quotidien dans ce but à 62%. Deuxième source d'information, les réseaux sociaux, pour lesquels les médias traditionnels produisent énormément de contenu. C'est peut-être pour ça que les Français figurent parmi les derniers en termes de consommation de médias papier.
Et puisqu'on parle de papier, justement, un numéro exceptionnel du magazine France Football paraît aujourd'hui.
Il est exceptionnel à plus d'un titre, déjà tout simplement parce que l'hebdomadaire sort traditionnellement le mardi et qu'on est mercredi. Ce numéro très spécial adopte aussi un format tabloïd magazine. Il sera disponible pendant 3 semaines au prix de 4,50€. Mais évidemment, c'est le contenu de ce France Football qui crée l'événement. Pour fêter les 60 ans de Diego Maradona, le magazine propose à ses lecteurs de découvrir la première interview du joueur légendaire à un magazine français depuis 25 ans. Et il y a 25 ans, c'était déjà dans France Football qu'il avait donné sa dernière interview. Le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferret, a expliqué à Louise Bernard pourquoi l'ancien footballeur argentin continuait à fasciner encore aujourd'hui.
Il va avoir 60 ans ce vendredi, mais en même temps, Maradona, il n'a pas besoin d'occasion particulière pour intéresser ou pour justifier un numéro. Quand on aime le foot, on s'intéresse à Maradona et nos lecteurs nous réclament assez régulièrement des sujets sur lui. C'est un des personnages les plus fous, les plus iconiques et les plus universels du football contemporain, des Maradona. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en reconnaître ou d'en revoir. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles il a traversé les générations, les époques. Et qu'en 2020, plus d'une trentaine d'années après avoir abandonné sa carrière, il fascine et intéresse les amateurs de foot, mais également tous les autres.
Pour dégoter cet entretien exclusif, le magazine a dû se montrer très patient. On ne vous dit pas ce qui se passe en studio parce que les interviews de Maradona sont normalement payantes. Je ne sais pas si vous saviez ça, Philippe.
Non.
Au début des négociations, le joueur réclamait 100 000 dollars pour cette interview. Mais pas question pour France Football d'acheter une interview. Pardon. Pascal Ferret nous raconte comment il a fait passer le chèque de 100 000 à 0 euros.
Pour ça, il a fallu ruser, il a fallu discuter, il a fallu convaincre. Et à l'arrivée, c'est en passant par son ex-femme, c'est elle qui s'est pointée avec son téléphone et qui l'a donné à Diego Maradona. Il a un vrai attachement à France Football, me semble-t-il. Il nous assurait également qu'à l'occasion de ses 60 ans, il avait une grosse pile de demandes d'interview du monde entier et que la seule qu'il accepterait, ce serait celle de France Foot. Alors, pour l'instant, on n'est pas en mesure de pouvoir le vérifier, mais ça nous a fait relativement plaisir.
Le rédacteur chef de France Football, Pascal Ferré, au micro de Louise Bernard. Et puis on termine ce journal Charles avec une annonce un peu inattendue.
Voilà, c'était peut-être le destin de Céline Dion de faire du cinéma, car c'est ça l'annonce, la superstar québécoise a signé pour son premier long métrage au cinéma. Elle jouera dans Text for You, un SMS pour toi si on traduit en français. En haut de l'affiche, puisqu'elle n'aura pas le rôle principal, on retrouvera la star de la série Quantico, Priyanka Chopra, et le héros de la série Outlander, Sam Yuan. L'histoire suit une jeune femme dont le fiancé décède, et pour gérer son deuil, elle continue à lui envoyer des SMS jusqu'au jour où son numéro est réattribué à un beau jeune homme qui traverse une épreuve similaire.
Et que vient faire Céline Dion dans tout ça ?
Sa musique va déjà jouer un rôle central puisque c'est grâce à elle que les deux tourtereaux qui ont du mal à oublier leur passé vont réussir à tourner la page. On imagine donc que Céline Dion jouera son propre rôle, rien n'a encore été confirmé, ou au contraire qu'elle fera une apparition dans un tout autre rôle en mode clin d'œil. Alors entre Céline Dion et le cinéma, c'est une longue histoire mais qui s'est jusqu'ici limitée à la musique. La chanteuse a signé la bande originale de plusieurs films, elle a notamment gagné deux Oscars pour la BO de La Belle et la Bête en 1991 et pour Titanic en 97, une petite chanson qui s'appelait My Heart Will Go. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Pas du tout, jamais entendu. Mais non, je plaisante. Merci Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour avec deux questions. Comment parler de laïcité et peut-on encore en débattre de manière constructive ? Nous serons avec Guylaine Chenu, directrice des contenus de la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, et Romain Marcilly, le nouveau directeur général de Vice TV France. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
La décapitation du professeur Samuel Paty, le projet de loi contre le séparatisme et depuis près de deux mois, le procès des attentats de janvier 2015. Ces trois événements ont replacé au cœur du débat public un principe, la laïcité, principe républicain, inscrit dans la Constitution depuis 1946. Il a été discuté, malmené, attaqué même ces dernières années et le voilà aujourd'hui fragilisé et avec lui la société tout entière. Comment en est-on arrivé là ? Comment parler calmement de laïcité et peut-on encore en débattre avec sérénité et de manière constructive sur les écrans ? Des questions auxquelles tentent de répondre deux programmes diffusés à partir de ce soir dans des genres complètement différents mais complémentaires. Une émission spéciale sur LCP, la chaîne parlementaire, Laïcité, 30 ans de fracture à gauche et une série de débats sur Vice TV, ça s'appelle Devise. Bonjour Guylaine Chenu.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des contenus de LCP. Avec vous Romain Marcilly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis peu le directeur général de Vice TV France, une chaîne destinée aux 19-35 ans qui s'intéresse, on va le dire rapidement, à la contre-culture, au sujet de société. C'est vous qui avez eu l'idée de Devise, c'est vous qui co-animez cette émission de débat. Quatre débats consacrés à la laïcité et trois valeurs de la devise de la République.
Chacun défend sa définition de la liberté et en général pour contester celle qu'avancent les autres.
Je pense qu'il faut le définir parce que ça ne doit pas être l'égalité. Et pour moi, il ne doit pas y avoir ni de dérive, ni d'absolu, ni d'excès dans l'égalité.
La fraternité, ça permet de se projeter sur des défis communs. Surtout à une époque, aujourd'hui, on parle de crise climatique, même de cancer climatique de plus en plus. Et à un moment, si on se met autour de la table et qu'on dialogue, on va pouvoir résoudre ces défis communs.
Donc la devise « liberté, égalité, fraternité », pourquoi vous êtes intéressé à un quatrième terme, « laïcité » ?
C'est une question, la laïcité, qui passionne tous les téléspectateurs et particulièrement les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de débats sont tout à fait polarisés sur toutes les valeurs, sur tous les principes républicains. Et je crois que nous voulions, nous chez Vice, prendre le temps, deux heures de débat, deux heures de discussion, d'échanges approfondis, pour détailler le concept. Je crois que très souvent, sans juger bien évidemment, les chaînes d'info font parfaitement leur travail, mais elles s'attachent à des faits, c'est très important, parler des faits, ne rentrons pas dans la tentation rousseauiste d'écarter les faits, mais il est parfois aussi important de prendre un peu de recul pour décrypter, approfondir les concepts. Et on rentre à la fois dans des choses parfois philosophiques et des choses plus concrètes. Lors de l'émission sur la liberté qui passe ce soir, parce que notre première émission de deux heures concerne le premier terme de la devise qui est la liberté, nos invités, la philosophe Monique Cantos-Perber que nous avons entendue, François-Xavier Bellamy, Nicolas Bouzou, Fergan Aziari, parlent aussi bien de Kant, de Kierkegaard et de Montesquieu que de Tinder et de Netflix. Le concept et en même temps les choses, des questions très concrètes.
Ah, dis donc, passer de Kierkegaard à Tinder, et vraiment, je voulais vous le dire, pas de tentation rousseauiste. Alors, Guylaine Chenu, ce soir, il y aura un débat sur LCP, également pour parler de laïcité. C'est même une soirée spéciale, puisque juste avant, vous allez diffuser un documentaire sur les fractures qui traversent la gauche sur le sujet. Il est signé Thomas Legrand et Pauline Palier. Cette soirée, vous aviez prévu de la diffuser au printemps dernier.
Oui, en effet, c'est à peu près il y a un an qu'on a décidé de lancer un documentaire sur ce sujet qui revient régulièrement dans les débats et qui hystérise d'ailleurs les débats, que ce soit dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale ou même dans la société française. Avec Bertrand Delay, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet. Et on est allé voir Thomas Legrand, on lui a dit voilà, il faut nous faire un sujet sur le voile, 30 ans de fracture à gauche, parce que la profondeur historique redonne une toute autre dimension à ce sujet. Et on voit aujourd'hui que les fractures qui existaient il y a 30 ans, sur l'histoire de ces trois jeunes filles qui sont arrivées au collège de Creil avec un voile, les fractures sont les mêmes aujourd'hui dans la société française et bien sûr au sein de la gauche.
Pourquoi avoir choisi le prisme de la gauche française? Parce qu'il y a deux gauches, comme le disait Manuel Valls.
Manuel Valls disait qu'il y a deux gauches irréconciliables. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est de retourner donc aux sources. Et on voit les pièges dans lesquels...
ma question. Pourquoi circonscrire le débat à la gauche? Pourquoi pas faire la laïcité de la droite à la gauche dans la société française? Pourquoi s'intéresser à la gauche spécifiquement?
Parce que c'est un débat qui a fracturé la gauche, vraiment, à ce moment-là. Je dirais que la droite s'est peut-être plus fracturée après sur le thème de l'identité, mais moins sur la laïcité. À gauche, c'est Marie-Georges Buffet l'explique très très bien. Au fond, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle est du Parti communiste, elle pense qu'elle doit être toujours du côté des minorités, toujours du côté de, entre guillemets, ce qu'elle appelle les opprimés. Et du coup, elle va défendre ces jeunes filles qui ont un voile, au nom de leur culture spécifique, au nom de leur histoire. Il y a aussi des relents de post-colonialisme dans cette attitude. Et du coup, elle va oublier ses engagements féministes. Et ce qu'il y a d'assez remarquable dans ce reportage, c'est que vous avez, je crois que c'est très singulier, des hommes politiques et des femmes politiques qui disent qu'ils se sont trompés. Face caméra, ils se sont trompés. C'est très rare.
Lesquels disent ceci?
Marie-Georges Buffet, à deux reprises. Elle dit qu'elle s'est trompée en 89.
Et qui d'autre? Ce que vous l'avez dit pour Marie-Georges Buffet et...
Les autres disent moins qu'ils se sont trompés, mais qu'ils ont évolué. Par exemple, quelqu'un comme Jean Glavany explique qu'il a fallu attendre la commission Stasi pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce n'était pas juste une petite crise d'adolescence, ces gamines qui arrivaient avec un voile à l'école, mais que c'était vraiment une guerre.
Romain Marcilly, vous avez essentiellement invité des gens de gauche pour débattre de la laïcité dans deux vises. François Pupponi, député apparent TPS, Fouinard Lazard, député LREM, plutôt à la gauche de la gauche. Gilles Clavreul, cofondateur du Printemps Républicain. Valentine Zuber, qui est une historienne. Pourquoi personne encarté à droite? Vous aviez peur du débat?
Non, pas du tout. Sur nos 16 invités, puisque 4 émissions, 4 invités, ces invités viennent de tous les horizons, à la fois idéologiques...
Oui, mais sur la laïcité, pourquoi 4 à gauche?
Sur la laïcité, je partage votre constat. Les fractures intéressantes aujourd'hui sont à gauche. Alors, est-ce que ces gauches sont irréconciliables? Est-ce qu'elles arriveront à se réunir sur des plateformes électorales? Ça, l'avenir le dira. Mais il y a effectivement une gauche très influencée par la gauche américaine qui croit avant tout dans la coalition des minorités. Et puis, il y a une gauche qui peut-être a souffert depuis la chute du mur de Berlin, qui ne s'est pas suffisamment renouvelée et qui est moins audible aujourd'hui, notamment dans les médias, qui reste attachée à des principes très universalistes. Cette tension-là, elle est très intéressante, sachant que nous, de notre débat, encore une fois, nous parlons des concepts, mais nous parlons aussi de choses très concrètes. Par exemple, François Pupponi nous raconte son expérience d'élu de terrain à Sarcelles. Et il évoque des questions très pratiques, comme celle de la mort, comme celle de la manière dont des funérailles, selon les différentes religions, sont les différents rites. Donc je crois que c'était intéressant de voir là, même si nous prenons du recul et que chaque invité ne rentre pas dans son univers idéologique de gauche.
Merci beaucoup Romain Marcilly, vous restez avec nous. Vous êtes directeur général de Vice TV France et on entend à votre accent que vous venez peut-être de Corse. Et Guylaine Chenu, directrice des contenus de la chaîne LCP. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Guylaine Chenu, directrice des contenus de la chaîne parlementaire, il y a une soirée spéciale laïcité à partir de 20h30, un documentaire, un débat. Romain Marcilly, dans ce studio, c'est le directeur général de Vice TV France. Devise, ça commence aujourd'hui. Il y a plusieurs débats, dont un sur la laïcité, évidemment, qui sera diffusé le 18 novembre. Ce que sous-tend vos deux émissions, ce sont au fond les conceptions de la laïcité, car il y en a plusieurs. Il y a plusieurs interprétations. Et pourtant, sur le papier, la définition est très simple. Je voudrais qu'on entende un extrait du documentaire diffusé ce soir sur LCP. On va entendre l'historien Patrick Veil, puis Jean-Luc Bianco. Il est président de l'Observatoire de la laïcité.
S'il y a un seul article à lire, que tout le monde doit connaître par cœur, c'est « La République assure la liberté de conscience ». Point. Donc la loi de 1905, c'est d'abord le fait que chacun a le droit, librement, en son fort intérieur, de croire ou de ne pas croire.
En fait, la laïcité, c'est pas une valeur, au sens où liberté, égalité, fraternité sont des valeurs. C'est un principe politique. L'Église chez elle, l'État chez lui.
L'Église chez elle, l'État chez lui, c'est clair. Pourquoi c'est trouble en réalité, Romain Marcilly ?
Il faudrait analyser. Nous, ce qu'on a voulu faire, en tout cas, c'est analyser ce trouble.
Ouais.
C'est analysé de manière très approfondie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le débat sur la laïcité concentre tout. Monsieur Bianco disait, il séparait la laïcité des trois autres. Le débat sur la laïcité concentre les trois autres. On parle de liberté, d'égalité, fraternité, beaucoup dans notre émission sur la laïcité.
Je vais poser la question différemment à Guylaine Chenu, puisque Jean-Luc Bianco, on vient de l'entendre dans votre émission sur LCP. La loi sur la séparation de l'Église et de l'État remonte à 1905, entre-temps, les problématiques de l'Église ont été remplacées par les problématiques de la mosquée. Le problème vient de là ?
C'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis la loi de 1905, l'islam est devenu la deuxième religion de France et que c'est vrai que c'est elle aujourd'hui qui interroge la laïcité. Et c'est ce qu'on entend dans le reportage. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, au début, dans l'histoire du voile, la plupart des observateurs n'ont pas vu que c'était un problème de laïcité. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une évolution. Au début, beaucoup de gens se sont dit, mais enfin, ce ne sont quand même pas deux jeunes filles avec un fichu sur la tête, je cite, ouais, qui vont remettre en cause un principe républicain. Et beaucoup de gens à gauche ont pensé que le djinn, ça je cite Harlem Désir, serait plus fort que le tchador. C'est-à-dire que ces jeunes filles, petit à petit, en venant à l'école, en se frottant aux valeurs de la République, allaient enlever le voile. Donc, avant même de... Si vous voulez, ce n'est pas tout de suite devenu un problème de laïcité pour beaucoup à gauche. C'est pour ça que c'est intéressant.
Je vais passer à un autre extrait. La laïcité avait été créée pour rassembler et aujourd'hui, elle divise. Cela se voit et ça s'entend dans les médias. On est ici, une émission média, et c'est ce que dit la députée Fiona Lazar dans « Devise ».
Madame Zuber a parlé de la culture du clash qu'il y a dans les médias. Je pense que c'est terrible et que ça vraiment polarise le débat et ça crée deux camps qui s'affrontent. Alors que la question de la laïcité, ça doit être justement un sujet de rassemblement, un sujet de cohésion.
Vous parliez des chaînes d'info tout à l'heure, Romain Marcilly. Parler calmement de ce sujet, c'est devenu impossible ?
C'est très difficile, comme tous les débats. Aujourd'hui, tous les débats sont polarisés, la laïcité particulièrement. La laïcité est partie liée avec la tolérance. Or, l'intolérance religieuse islamiste a causé énormément de victimes sur notre territoire depuis 2012. Il y a une profonde inquiétude. Dans la culture des réseaux sociaux, la culture du clash fait qu'il est très compliqué d'aborder ces concepts de manière sereine.
Et la culture des chaînes d'infos qui se tirent la bourre, est-ce qu'on peut le dire aussi que ça participe à l'hystérisation de ce débat ?
C'est plus difficile, effectivement, à la télévision, ça participe à l'hystérisation, à la presse fait un rôle fondamental, à la radio, avec les podcasts, on peut prendre davantage le temps, à la télévision, dans un contexte où il est très difficile de conserver l'attention du téléspectateur, de la personne sur les réseaux sociaux pendant plus de quelques secondes, c'est un défi. En revanche, je pense que nous, les médias, même s'il est très difficile d'essentialiser les médias, nous devons faire le pari du meilleur chez nos téléspectateurs et chez nos audiences.
Guylaine Chenu.
Mais il est vrai que au moment de la création de cette loi, en 1905, il a fallu d'abord 3 ans pour sortir la loi, il y avait déjà des antagonismes extrêmement forts entre Combes et Briand, entre une conception très laïcarde et très dure de la laïcité et une conception un peu plus souple. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'au travers de l'histoire, ces deux conceptions continuent toujours d'antagoniser la société française et de l'hystériser même.
Puisque vous remontez à l'histoire, après 1905, donc 1989, l'affaire du voile, c'était à Creil, deux collégiennes qui veulent porter le voile en islamique, refus du proviseur, le sujet inonde les journaux, dans les rues, manifestations, contre-manifs. Et il y a des conséquences médiatiques à cela, c'est ce qu'explique une responsable associative féministe, elle s'appelle Mimouna Adjam.
À l'époque, tout le monde achète, vous savez, ces énormes paraboles qu'on va retrouver partout dans toutes les cités. Et peu à peu, on voit bien que la télévision française, elle a de moins en moins droit de cité dans les foyers que la télévision algérienne ou marocaine. En tout cas, moi-même, quand je vais dans ma famille, c'est Canal Algérie qui est branché en permanence à cette époque-là. Alors bien sûr, c'est la liberté des gens, les gens regardent ce qu'ils veulent, mais on voit bien quand même qu'il se passe quelque chose à ce moment-là.
Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer et qui change même année après année. On l'a vu depuis hier, il y a des manifestations partout dans le monde. À Raqqa, je crois, 40 000 personnes dans la rue. Pas à Raqqa, j'ai oublié le pays, contre les propos d'Emmanuel Macron. Et on voit que c'est mondialisé. Guylaine Chenu, il y a beaucoup de musulmans qui se détournent des chaînes françaises. Ils se mettent à regarder des chaînes de télé du monde arabe. Est-ce que les médias français ont échoué à parler à une partie de la population ? Et vous étiez envoyé spécial, donc vous avez un recul sur ce sujet-là.
Non, il est vrai que le retour à la religion de toute une partie d'une génération d'enfants d'immigrés s'est fait ces 30 dernières années. Et c'est vrai que l'influence de l'islam de l'étranger, de l'islam du Maghreb, a été très importante, et puis de l'islam radical, on peut le dire. Hein. Et je ne peux que constater ce fait, si vous voulez. Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que vous dites, tiens, on a échoué à parler à tout le monde ?
On a essayé. Du temps où j'étais envoyée spéciale, on a fait énormément de reportages là-dessus. Et d'ailleurs, à l'époque, on se faisait souvent taxer de... on pensait qu'on était excessif, qu'on voyait le mal partout, que d'ailleurs, il y avait toujours cette accusation de « mais vous allez faire monter le Front National si vous parlez trop d'islamisme radical, etc. » Donc ça n'a pas été facile. Peut-être que nous avons échoué, c'est pas impossible.
Et je me souviens aussi que quand les médias ne parlaient pas d'islamisme radical, les mêmes personnes disaient « vous faites monter le Front National oui. ». Ça faisait toujours gagner Le Pen,
je me souviens
de ça. C'est
un débat qui est piégé.
Romain Marcilly, Vice TV, on peut le trouver partout, c'est une plateforme qui a démarré au Canada, si je me souviens bien, on peut le trouver partout en France. Dans combien d'autres pays êtes-vous diffusé ? Êtes-vous diffusé au Maghreb ? Et ces reportages-là peuvent-ils être vus dans les pays du Maghreb ?
Alors, la chaîne aujourd'hui n'est pas diffusée au Maghreb. Le média Vice, le média digital, effectivement, est partout dans le monde. La chaîne, pas partout. En France, elle est distribuée en exclusivité par Canal. Bien sûr, on nous retrouve sur MyCanal, qui est une source très importante aussi de téléspectateurs pour nous. Nous sommes dans tous les pays. Donc, effectivement, quand on est un groupe de médias mondial, on doit s'adapter.
Et quel retour vous avez de vos autres audiences mondialisées ? Quel retour vous avez des pays musulmans ?
Je pense que Vice arrive depuis sa création, comme vous l'avez rappelé, en 1994. Il y a toujours cette volonté de montrer le monde tel qu'il est, sans biais, et d'être dans une espèce de transmission. Voilà, donc on n'est pas un média idéologique, on n'est pas un média, on peut être engagé sur certaines questions, mais on n'est pas idéologique. Donc on a cet ADN, vous savez, du gonzo journalisme. On va sur les terrains d'opération. On avait d'ailleurs travaillé à l'époque avec Envoyé spécial pour montrer des images impressionnantes de l'État islamique qui prenait possession de Raqqa. Voilà.
Il y a toujours aviez été les premiers à montrer ceci, c'était en quelle année ?
Tout à fait, c'était en 2014. Et Vice remporte chaque année de nombreux Emmy Awards pour ses grands reportages.
Et nous l'avions diffusé dans Envoyé spécial avec Françoise Joly.
Nous parlions de laïcité. Merci beaucoup, Guylaine Chenu. Je rappelle que vous êtes directrice des contenus du LCP. Ce soir, soirée spéciale laïcité à 20h30, un documentaire puis un débat. Et puis Romain Marcilly, le nouveau directeur général de Vice TV France. Devise, ça commence aujourd'hui. Premier débat sur la liberté, ça sera à 21h10. Ça se retrouve évidemment sur le web, et le débat sur la laïcité dont nous parlions spécifiquement sera diffusé le 18 novembre. Merci d'avoir été tous les deux en direct avec nous. Dans un instant, on sera avec le critique, plutôt journaliste littéraire, François Bunel. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est critique, parrain de la 5e édition de l'opération solidaire Donnez à lire, qui a pour but d'offrir des livres aux enfants et aux adolescents éloignés de la lecture. Ça aussi, c'est nécessaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour François Bunel.
Bonjour Philippe.
Vous êtes animateur et journaliste littéraire. Vous présentez La Grande Librairie sur France 5. C'est désormais le mercredi en prime time. Et vous serez ce soir à l'antenne à 21h. On va en parler. Mais d'abord, je voulais vous recevoir parce que vous êtes en outre le parrain d'une belle opération organisée par les librairies indépendantes, le Secours Populaire, en partenariat avec France Télévisions. Une fois qu'on dit tout ça, ça ne dit rien. Le titre « Donnez à lire ». Expliquez le principe.
Bon, c'est très simple. C'est une opération qui consiste à rappeler qu'un livre peut changer une vie s'il est mis entre les bonnes mains au bon moment de la vie. Et le bon moment de la vie, Philippe, c'est le moment où tout est possible, c'est-à-dire l'enfance. Le moment où entre, allez, on va dire 4 ans jusqu'à l'adolescence, vous pouvez encore, parce que vous avez lu des mots, lu une aventure, lu une histoire, vous dire « Oh !» Ma vie va faire, ça va être ça. Je vais devenir chercheur d'or, je vais devenir pirate, je vais devenir, bon, je vais devenir tout simplement quelqu'un qui vit bien, ouais. Qui vibre, qui regarde le monde, qui s'y intéresse. Vous voyez, les livres, c'est l'arme idéale pour affronter le réel. C'est le triomphe de l'imaginaire sur les passions tristes.
Là, vous me racontez le bien fondé de l'opération, mais d'abord l'opération, l'effet.
L'effet, c'est très simple. Vous allez en librairie, par exemple, vous qui nous écoutez, ou vous, Philippe, tout à l'heure en rentrant, faites un crochet par votre librairie préférée. Vous allez évidemment prendre un livre pour vous. Puis, allez faire un tour au rayon jeunesse, par exemple. Et puis, choisissez un livre. Un livre qui vous touche, rajoutez-le à vos achats. Vous le donnez, ce livre, à votre libraire, c'est vous qui le payez. Vous le confiez au libraire et le libraire le donnera aux bénévoles du Secours Populaire qui ensuite l'offriront à un enfant, à un adolescent qui peut-être n'a pas l'habitude de lire.
L'opération a démarré le 17 octobre, elle va durer jusqu'au 20 novembre, ça veut dire qu'il reste plus de 3 semaines. Mmh. Il faut que ce soit un livre neuf, hein. C'est pas un rogaton qui traîne au fond d'un débarras.
Non, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, vous voyez, c'est que justement c'est un livre neuf, c'est aussi la puissance de quelque chose de beau. On est dans l'ère de l'immatériel, et offrir à un enfant qui est né avec les réseaux sociaux un livre neuf, mais qui est aussi quelque chose qu'il va garder, dont on tourne les pages. Vous connaissez mieux que moi espèce de...
Moi, c'est différent.
De relation sensuelle.
Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai été élevé par des parents profs, avec une maman prof de lettres. Il y avait des livres partout. Quel est le public visé? C'est ceux qui n'ont pas de livres chez eux?
Oui. C'est le public visé, c'est de la transmission. C'est ceux qui savent à quel point le livre est important pour ceux qui n'ont pas de livre, pour ceux qui n'ont pas d'ouvrage chez eux et qui ne savent même pas que peut-être, dans ce parallépipède avec des pages qu'on tourne, se contient leur avenir et le monde.
Attendez, pardonnez-moi, mais vous parlez comme si les gens n'allaient pas en classe. Est-ce que c'est pas le message que font passer tous les instituteurs, pardon, tous les professeurs des écoles et ensuite tous les profs de français, d'histoire géo, de dire il faut lire des livres, on vous en donne. Les gamins en classe, parfois, ils en ont même marre qu'on leur file des livres.
Je suis pas sûr qu'ils en aient marre. En tout cas, les profs le font, les instituteurs aussi, vous avez raison. Bien sûr qu'ils le font, mais c'est pas parce qu'ils le font qu'il faut pas aller encore plus loin.
Et d'accord.
Donc il s'agit pas de se substituer à eux, au contraire, il s'agit d'aller poursuivre ce qu'ils font. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, au contraire.
Les bibliothèques sont gratuites quand même, le frein à la lecture n'est pas l'argent, ou est-ce que je me trompe? On donne les livres au collège, ou est-ce que je me trompe là encore?
Oui, mais là il s'agit pas de livres de collège. Vous savez, c'est formidable le collège, le lycée, la prescription, mais ce qui est encore plus formidable, et c'est pas vous, Vandel, espèce de voyou, vous qui fûtes un garnement, qui allez me dire le contraire.
Oui, quand il fallait se taper le rouge et le noir, on n'avait pas envie.
Eh bien, vous aviez plutôt envie de vous taper, comme vous dites, un bon polar. Voilà. Ou alors, voilà. Or, vous voyez, il y a deux choses dans l'éducation, dans l'élévation. Il y a ce que les profs donnent à lire, et il faut les lire. C'est indispensable. Et puis, il y a aussi ce que vous-même, vous trouvez un peu par hasard. Ouais. Le livre que vous n'attendiez pas. Ça peut être un bouquin de science-fiction, ça peut être un récit d'aventure, ça peut être, encore une fois, un livre qui n'est pas forcément de votre âge. Moi, je crois beaucoup qu'il faut faire tomber les barrières, les murs, et puis surtout les étiquettes.
Attendez, on ne va pas filer Anaïs Nin à un enfant de 12 ans.
Et pourquoi pas? Expliquez-moi pourquoi pas.
Ah, c'était une question.
Non, moi je pense que vous pouvez tout donner à condition que vous accompagniez d'un discours. Vous savez, quand...
Oui, mais là vous ne l'accompagnez pas dans l'opération. Vous achetez le livre et vous le donnez au libraire. Le gamin, après, on ne sait pas ce qu'il va en faire de ce livre.
Il ne faut pas sous-estimer ceux qui lisent. Ceux qui lisent se posent des questions. Et donc, quand ils tomberont sur un roman, quel qu'il soit, alors peut-être pas Anaïs Nin en premier, vous pouvez peut-être commencer par Robert Louis Stevenson ou Alexandre Dumas, Philippe.
Mais vous
pouvez aussi commencer avec la littérature jeunesse. On a une formidable littérature jeunesse aujourd'hui en France. Rajoutez, allez fureter dans ce rayon, dans les allées de votre librairie, et vous allez voir un livre qui, va vous toucher, et vous allez vous dire, tiens, peut-être que si un gamin le lisait, il commencerait un débat.
J'ai une
avec
petite,
d'autres.
Petite critique à faire, ou plutôt un petit bémol. Je sais que chaque initiative est bonne à prendre. C'est pas à vous que je vais la prendre. C'est aussi la raison de votre invitation. Mais pardon de dire comme ça, mais dans le dossier de presse, ils indiquent qu'en 2009, grâce à Données à lire, 4000 livres ont été collectés puis offerts à des enfants. Mmh. Franchement, il y a 3000 librairies qui participent à l'opération. Ça fait à peine plus d'un livre par librairie, c'est très peu. Je vais citer une association formidable qui s'appelle Recycle Livre. Elle recycle des livres chez les gens, elle les récupère. Elle en donne chaque année 2 millions. Et pour ce qui est des livres jeunesse, elle en donne entre 50 000 et 100 000 chaque année.
Et ben c'est pour ça précisément qu'il faut donner un coup de main, pour que ce soit bientôt 2 millions. Vous avez parfaitement raison. Là où je vous reprends, mon cher Philippe, c'est que vous citez des chiffres de 2009. Alors, je ne suis pas très bon
2019,
en maths.
C'est moi qui...
Ah d'accord, parce que 2009, ça fait quand même, il y a des piges.
C'était un lapsus, c'est bon, 2019. C'était l'an passé, 4000 livres.
Il faut commencer.
Vous savez quoi?
Non mais attendez, moi je ne suis pas d'accord avec ça et avec vous. On peut toujours critiquer, c'est votre boulot de critiquer.
Mon
métier, c'est de donner envie. Mon métier, c'est d'aider les gens. Donc peut-être que ce n'est pas assez, mais c'est mieux que zéro.
On est tellement d'accord, on est absolument d'accord là-dessus.
Et justement, aidez-nous sur Europe 1.
Ouais.
Parlez de cette opération et vous verrez qu'il n'y en aura pas 4000. L'année prochaine, allez, on se retrouve l'année prochaine, il y en aura le double.
J'y viens d'avoir une super idée, vous savez ce qu'on va faire. On va inviter François Bunel. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Bunel, parrain de l'opération Données à lire, organisée par les librairies indépendantes et le Secours Populaire. C'est en partenariat avec France Télévisions. Et puisqu'on parle de télévision, la grande librairie sur France 5 est repartie pour une 12e saison. Vous serez ce soir à l'antenne à 21h, juste après l'allocution du président Macron. Le confinement, c'est bon pour la lecture? Je vous pose la question, je connais une partie de la réponse. Le milieu de l'édition est l'un des rares dont le chiffre d'affaires est en progression malgré la crise du coronavirus.
Le milieu l'édition, oui. Ce que j'espère, c'est que si confinement il y a, et on le saura ce soir à 20h, on saura tirer les leçons de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de l'envie de lecture. C'est très compliqué, mais moi j'espère qu'on trouvera le moyen d'aider les libraires. C'est-à-dire de faire en sorte que les libraires, d'une manière ou d'une autre, s'ils le souhaitent, puissent ouvrir, puissent trouver des solutions. Il y a eu des initiatives incroyables, Philippe, qui ont été imaginées et inventées par tout un tas de libraires partout en France. Je pense qu'il faut les écouter et leur demander ce qu'ils veulent et peut-être dire aussi que le livre fait partie des produits de première nécessité. Vous le dites vous-même, hein, on a besoin de lire pour s'en sortir.
On vous approuve. Le thème de ce soir dans la grande librairie, comment Internet et les réseaux sociaux règlent et dérèglent nos vies. Très bonne thématique. Je voudrais l'appliquer à la littérature. Selon vous, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté en bien et en mal à la littérature et aux livres ?
Alors là, ça, il faudrait avoir 5 heures devant soi.
Ça sera le thème de ce soir, j'imagine.
En partie. Ouais. En bien et en mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il est encore trop tôt pour savoir si c'est bien ou mal. Et puis je voudrais sortir de ces catégories. Pardon, hein, mais je crois que c'est un petit peu plus complexe. Ce qui est formidable avec la littérature, c'est qu'elle est là pour complexifier le réel. Vous voyez, on a sans cesse des réseaux sociaux qui vous forcent à choisir bien, mal, noir, blanc.
J'aime pas.
La littérature, c'est ce qui permet d'en sortir. C'est ce qui permet de penser par soi-même. Il y a des choses qui ont été extrêmement positives. Je pense notamment au fait que beaucoup de gens se sont mis à lire et puis aussi à pouvoir donner leur avis sur la lecture. Et puis il y a des choses qui, moi, me plaisent moins, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux les haters, la haine, le bashing, l'idée que parce que j'ai lu un livre, je peux en parler comme un autre. Non, pas forcément. Essayons déjà d'échanger. Essayons de transmettre la passion plutôt que la passion de détruire. Les réseaux sociaux ont exacerbé, on le sait, j'invente rien, les passions tristes. Vous voyez, le ressentiment, l'amertume, la haine, la détestation, mais les réseaux sociaux pourraient aussi être ce qui permet à des libraires, à des écrivains, à des éditeurs de se faire connaître d'un plus vaste public. Donc vous voyez, c'est pas bien mal, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on pense demain.
Vos quatre invités, ce soir, vous les connaissez par cœur, j'ai la liste. Hein.
Oui, Rachid Benzine, qui est à la fois islamologue et très intéressant, mais aussi romancier, qui a écrit un roman prodigieux sur la façon dont Internet a changé la vie dans les pays arabes, mais aussi Eric Reinhardt. Alors lui, c'est l'invention d'Internet par les Français. Figurez-vous qu'Internet a été inventé, ou presque, en France,
ouais.
Et puis qu'un président de la République a décidé qu'on allait faire le Minitel à la place d'Internet. C'est fou, mais c'est
pardon
vrai.
Pardon de rire. C'est génial.
Ouais. Voilà.
Alice Zénitaire également.
Et Alice Zénitaire, évidemment, avec un très très bon roman. Et puis Marc Lévy, qui vient pour la première fois d'ailleurs dans la grande librairie en présent.
Oui, pourquoi pour la première fois et pourquoi Marc Lévy?
Eh bien parce que Marc Lévy, d'abord il faut être à l'écoute des livres plus que des auteurs. Et puis parce que Marc Lévy, dont j'avais moins apprécié les comédies sentimentales, rompt complètement avec ce genre. Et à l'aveugle, je mets quiconque au défi de ne pas aller jusqu'au bout de ce livre qui est addictif et qui raconte l'histoire de 9 Robin des Bois des temps modernes qui vont, grâce à Internet, essayer de changer le système. C'est très réussi, c'est un thriller.
Et ce qui est très très fort pour avoir lu ce livre, avoir reçu Marc Lévy dans cette émission, c'est que c'est plus qu'un thriller, c'est une enquête. Et
oui,
que tout ce qu'il raconte est vrai et ça fait froid dans le dos. La petite librairie, ça continue ?
Oui, ça continue.
On va dire ce que c'était. C'était une émission, un programme court.
Mais pourquoi c'était ?
Quotidien,
pourquoi l'imparfait ?
D'une trempe, parce que je ne savais pas si ça allait continuer et si ça allait continuer à être montré sur toutes les chaînes du groupe. C'était assez rare pour être signalé. On pouvait vous voir sur la 2, la 3, la 4 et la 5.
Voilà, et ça continue. Et ça, il faut saluer Delphine Ernotte qui a eu cette envie totalement inédite dans l'histoire de France Télé, c'est-à-dire de mettre le même programme à des heures de très grande écoute. C'est juste après le JT de 13h sur la 2. C'est juste avant le 19-20 sur France 3 et après le prime de France 5. Et voilà, 1 minute 50 pour parler de littérature, de lecture de tous les genres et en essayant de donner envie.
Il y a tellement de choses dont il faudrait parler. Il faut aussi parler d'América, 16 numéros sur 4 ans qui va bientôt s'arrêter parce que Trump, on ne sait pas, vous avez dit que vous allez faire 16 numéros pour Trump. Et puis si on lisait à voix haute, grand concours national de lecture qui a rassemblé cette saison 140 000 collégiens lycéens. Mmh. Vous allez le refaire cette année ?
Oui, c'est reparti et on a de plus en plus de classes qui sont inscrites.
Merci beaucoup François Bunel. Je le rappelle, vous parrainez Donnez à lire, opération organisée par les librairies indépendantes et le Secours populaire. Allez chez votre libraire indépendant, il va tout vous raconter. Et puis donc ce soir sur France 5, la grande librairie. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue évidemment. Le rappel des titres de 10h, à la suite de quoi Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Et tiens, un écrivain romain, on l'a mal noté ce nom, c'est pas Romain Puertos, c'est un autre nom, je l'ai ici. C'est Romain Puertolas, faut toujours respecter l'orthographe des gens, c'est un roman très mystérieux. C'est le type qui avait raconté l'histoire du fakir coincé dans son armoire et qui a appuyé dans les indispensables. Les sorties ciné du jour, nous sommes mercredi, et des jeux vidéo pour Halloween.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.